Le projet de loi organique modifiant le corps électoral entamera son parcours législatif le 18 mai. Le texte sera d'abord soumis pour avis aux élus du Congrès réunis en séance publique. La deuxième session de l'année de la Cour d'assises débutera lundi prochain. 4 affaires de viol et 2 affaires de droit commun, dont celle du braquage de la station mobile de la Coulée en 2022, sont inscrites au rôle. Le risque que la Calédonie soit concernée par l'hantavirus est très faible. Il n'y a aucun cas recensé sur le territoire. Toutefois, l'ADAS est mobilisée pour parer à toute éventualité. Le GC Business School célèbre ses 40 ans en Nouvelle-Calédonie. L'école de gestion et de commerce aura permis à 860 Calédoniens de poursuivre leurs études sur le territoire et de se former au métier du management. Et puis les Océaniens de natation se poursuivent à Fidji. 9 jeunes Calédoniens sont engagés et réalisent de belles performances. Les Kagous ont pour l'instant décroché 6 médailles, dont une médaille d'or. Bonsoir et soyez les bienvenus dans ce journal. Après les élections en Nouvelle-Calédonie, le dialogue pourra reprendre avec l'ensemble des partis. C'est ce que déclare la ministre des Outre-mer, alors que la modification du corps électoral doit être examinée, Elisabeth Noir, à partir de lundi.
Et tout va aller très vite. C'est le Congrès qui va ouvrir le bal. Il sera convoqué lundi après-midi, le 18 mai, à 13h30, pour être consulté pour avis sur le projet de loi organique modifiant le corps électoral. La commission de la législation et de la réglementation générale s'est d'ailleurs réunie dès ce matin pour examiner le texte et pour entendre à sa demande le sénateur Georges Naturel, dont la proposition de loi concernant l'ouverture aux seuls natifs va servir de base au projet de loi du gouvernement qui va l'amender. Le texte va dans la foulée être examiné par la commission des lois du Sénat le 18 mai au matin à Paris, et le Sénat l'examinerait également le 18 mai dans l'après-midi avant sa transmission à l'Assemblée nationale. Un vote final est d'ores et déjà prévu au Sénat le 21 mai après la convocation possible dans l'intervalle d'une commission mixte paritaire si les deux chambres du Parlement n'aboutissent pas à un vote à l'identique. Un calendrier très court, donc, vous l'avez compris. Invité de France Info, la ministre des Outre-mer a rappelé que les élections provinciales se tiendront le 28 juin. En parlant d'un rendez-vous démocratique important pour redonner de la légitimité aux institutions. Et elle est revenue sur l'ajustement du corps électoral qui est, dit-elle, une question de justice et d'équilibre.
C'est important. C'est un exercice démocratique. Nous redonnons la parole aux Calédoniens pour relégitimer les institutions. C'est la première chose. Nous le faisons avec un ajustement du corps électoral, qui n'est pas un bouleversement démographique, qui n'est pas non plus une remise en cause de ce qu'est la tradition jusqu'ici en Nouvelle-Calédonie. C'est un ajustement.
C'est 11 000 personnes supplémentaires.
Voilà, vous avez des milliers de Calédoniens qui sont nés sur le territoire, ou des conjoints de citoyens calédoniens qui font vivre le territoire, qui ont fondé leur famille, qui y travaillent, qui ne peuvent pas voter. C'est une question de justice. C'est aussi une question d'équilibre. Et donc, ça n'est pas un grand bouleversement. C'est un point d'équilibre qui a été trouvé. Nous voulons donner la possibilité à ces Calédoniens de pouvoir se prononcer eux aussi, au même titre que les autres, ce 28 juin.
Ce n'est pas une ouverture du corps électoral, mais un ajustement, ajoute Naïma Moutchou. Et pour elle, l'objectif pour le gouvernement, c'est d'avancer d'ici la fin de l'année vers un cadre stable et partagé pour le territoire. La ministre des Outre-mer évoque aussi la suite du processus. Il faut permettre aux Calédoniens de débattre de leur avenir. Et dès le mois de juillet, avec le Premier ministre Sébastien Lecornu, les acteurs calédoniens seront réunis pour poursuivre les discussions sur l'avenir institutionnel. En attendant, Naïma Moutchou estime que l'accord de Bougival n'est pas à jeter à la poubelle, mais qu'il a été utile parce qu'il a permis de remettre tout le monde autour de la table et de parler de tout.
L'actualité politique, c'est aussi le Paliquet qui était resté silencieux jusque-là, mais il communique aujourd'hui sur le congrès extraordinaire qu'il a réuni le week-end dernier, c'était les 8 et 9 mai à Vaud, Elisabeth.
Le Paliquet qui publie un communiqué de 4 pages dans lequel il constate la fin de l'accord de Bougival et il appelle à se mobiliser dès aujourd'hui pour les élections provinciales. Pour lui, il s'agit de créer les conditions d'un rapport de force pour porter son projet de pleine souveraineté en partenariat. On retient donc que le Paliquet considère que l'accord de Bougival-Élysée-Oudinot est désormais arrivé à son terme après le rejet du projet de loi constitutionnelle. Il prend acte de cette situation et il constate que cela ouvre une nouvelle séquence politique. L'objectif, dit-il, est désormais d'éviter le statu quo et de préserver la trajectoire de décolonisation engagée depuis les accords de Matignon et l'accord de Nouméa. Concernant le corps électoral, le Paliquet rappelle que pour lui, cette question doit être traitée dans le cadre d'un accord politique global. Et il considère en conséquence que la référence applicable pour les prochaines élections provinciales est celle de l'accord de Nouméa. Il se déclare cependant favorable à ce que la proposition d'ouverture, notamment aux natifs, soit soumise au débat et aux décisions des institutions compétentes. On relève qu'il n'évoque pas le cas des conjoints. Dans ce communiqué, le Palika se dit aussi favorable à une reprise des discussions après les élections provinciales, en affirmant ne pas être dans une logique de rupture du dialogue politique. Il estime toutefois qu'avant la reprise éventuelle des discussions, il devra renouer et renforcer les échanges avec l'ensemble des forces indépendantistes. À ce propos, le congrès extraordinaire du Palika rappelle que le mandat des membres de l'actuelle délégation de négociation se poursuit jusqu'au provincial et que la composition des futures équipes de négociation sera décidée après le scrutin, même si les futures discussions sur l'avenir institutionnel se feront, dit-il, sur la base de l'expérience, des acquis et du travail réalisé par les camarades qui ont participé aux négociations précédentes.
Venons-en à l'actualité judiciaire avec la présentation cet après-midi de la deuxième session d'assises de l'année. Une session qui débutera lundi, le 18 mai, qui se clôturera, Léo Fichou, le vendredi 5 juin.
Oui, cet après-midi, l'avocat général Pierre-Yves Michaud a détaillé les dossiers qui seront jugés pendant ces trois semaines. Quatre affaires de viol, dont un incestueux sur mineur, mais aussi deux affaires de droit commun, soit au total six affaires. Pierre-Yves Michaud, l'avocat général.
Autant la précédente session, on avait pu respecter un équilibre entre les dossiers de mœurs et les dossiers de droit commun. Là, pour cette session, ça n'a pas été le cas. Nous avons dû audiencer en majorité des dossiers de mœurs, des dossiers de viol, agression sexuelle, parce qu'ils sont malheureusement assez nombreux entre stocks. Donc nous avons quatre dossiers de mœurs, quatre dossiers de viol par conjoint, de viol sur mineur de 15 ans. Il y a même un dossier qui relèvera de la cour d'assises des mineurs. Et deux dossiers, je dirais, de droit commun. Un dossier de braquage, c'est le braquage de la station mobile de La Coulée, hein, au mois d'octobre de 2022. Et un dossier de vol aggravé, vol suivi d'infirmité permanente.
En 2026, la cour d'appel de Nouméa prévoit quatre sessions d'assises. La première s'est déroulée en début d'année, la deuxième vient d'être présentée et les deux dernières seront allongées pour juger plus de dossiers. Une instruction du ministre de la Justice, le garde des Sceaux. La cour d'appel de Nouméa s'est vue assigner un objectif de 28 dossiers criminels à juger chaque année. On retrouve Pierre-Yves Michaud, l'avocat général.
Chaque session sera rallongée d'une semaine, ce qui devrait nous permettre de juger en moyenne au moins 8 dossiers par session pour atteindre une bonne trentaine de dossiers criminels jugés par an pour répondre un peu à cette problématique de saturation des stocks des cours d'assises sur le territoire de la France. Donc nous allons cette année atteindre cet objectif sans difficulté, mais nous allons même à partir des années suivantes très probablement réussir à aller au-delà pour juger entre 30 et 35 dossiers, afin à la fois de répondre aux objectifs qui nous sont assignés, mais aussi pour faire en sorte que les dossiers criminels puissent être jugés dans des délais raisonnables.
La deuxième session d'assises de l'année débutera donc lundi prochain, le 18 mai au matin, par le traditionnel accueil des jurés. Le premier dossier sera traité le lendemain, le mardi 19 mai, et le surlendemain, le mercredi 20 mai.
Il y a de l'inquiétude, surtout après la crise Covid, autour des risques que pourrait représenter l'antivirus. Un foyer de cette maladie a été découvert, vous le savez, sur un bateau de croisière, le MV Hondius. Trois personnes sont mortes, d'autres sont hospitalisées. Les autorités sanitaires de chaque pays s'organisent pour prévenir une éventuelle propagation de la maladie. Le risque que la Calédonie soit concernée est très faible. Il n'y a aucun cas recensé sur le territoire. L'ADAS est évidemment mobilisée et Laura Dupont, responsable de la veille sanitaire, de la surveillance aux frontières et des plans d'urgence à l'ADAS, tient à rassurer.
La Nouvelle-Calédonie, pour l'instant, n'est pas concernée par le risque d'introduction de ce virus. En fait, elle n'est pas concernée par l'itinéraire du navire ni par la recherche de personnes contact liées à la croisière. Aucun cas n'a été signalé sur le territoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand un événement de cette ampleur inhabituelle est signalé au niveau international, nous sommes en lien avec les autorités sanitaires internationales comme l'OMS afin d'évaluer le risque et de mettre en place, si besoin, des mesures sanitaires adaptées.
La crise Covid avait pris tout le monde de court. Cette fois-ci, elles peuvent anticiper les procédures éventuelles qu'il faudrait mettre en place, même si, encore une fois, le risque de voir un cas sur le territoire est très faible.
Effectivement, l'expérience du Covid est toujours bonne à prendre dans la gestion des épidémies. Pour l'instant, maintenant, dans ce cadre-là spécifique, ce virus ne ressemble pas du tout à celui du Covid. Hein. On n'est pas sur les mêmes facteurs de transmissibilité entre les personnes. On se prépare de la même manière. On en essaie d'anticiper au maximum les choses avec les différents partenaires sanitaires sur le territoire. Mais le risque est faible pour la Nouvelle-Calédonie.
La situation sanitaire générée par l'antivirus est donc très différente de celle du Covid. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure, à condition, explique Laura Dupont, d'avoir les bonnes informations.
Ce qui est à prendre en compte pour la population générale, c'est de surtout de se fier à ce qui est transmis par le gouvernement et d'éviter les rumeurs et ce qui peut circuler sur les réseaux sociaux.
Laura Dupont, responsable de la veille sanitaire, de la surveillance aux frontières et des plans d'urgence à la DAS. Il est 17h56, on va marquer une première pause dans ce journal. Vous restez avec nous, nous reviendrons notamment après la publicité sur Une terre pour un crime. C'est l'ouvrage qui a été donné par Géry Delatière ce matin aux archives de la Nouvelle-Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA Agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achat, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Info soir, Lionel Sabot.
Du changement à la tête de Prony Resources qui annonce le départ de son président Thibault Martelin. Selon nos informations, il s'agit d'un choix personnel et familial. Dans un communiqué, PRNC souligne que Thibault Martelin a exercé ses fonctions avec engagement, franchise et transparence et que son implication dans le dialogue et les dossiers stratégiques ont été particulièrement appréciés par les équipes. Après ce départ, PRNC a réuni une assemblée générale pour désigner son successeur, Fatima Lachiez, actuellement secrétaire général de PRNC, va assurer depuis Paris la présidence pour une période transitoire. Au chapitre des faits divers, un accident de la circulation tout début d'après-midi à Nouville. Un motard de 46 ans est seul en cause. Il a perdu le contrôle de sa moto au niveau des cacaos du Pacifique. Il a été blessé à la jambe et à l'épaule et évacué au Médipôle. Et puis hier, c'est en début de soirée qu'un motard a perdu le contrôle de son deux roues dans le col de la pirogue. Il s'agissait d'un couple de motards qui roulait dans le sens Païta Tontouta. La passagère a été blessée à la jambe et elle aussi évacuée au Médipôle. L'action des pompiers a été levée à 16h à Pointe-Boute. Depuis samedi dernier, ils luttent contre un incendie au dépotoir. Le feu est sous contrôle, mais les pompiers peinent encore à totalement éteindre les derniers points fumants qui resteront donc sur surveillance dans la nuit. Arnaud Banfi est le directeur du CIVEM VKP.
Les principaux points fumants ont été éteints. Il reste quelques rares points fumants très légers qui pourraient être dus à des vapeurs d'eau liées à l'arrosage des pompiers. Donc là, les pompiers ont terminé leur action. Ils vont faire des reconnaissances plusieurs fois dans la soirée pour voir un petit peu l'évolution. Et si nécessaire, on refera une petite opération ponctuelle demain matin de traitement des éventuels points chauds persistants. C'est-à-dire qu'on tient le bon bout, que normalement, il ne devrait plus y avoir de nuisances significatives pour les riverains autour cette nuit. On espère que ça dure et qu'il n'y ait pas de reprise. Hein. Malheureusement, le problème des feux de pêchette, c'est souvent que ça couvre en profondeur et que malgré une action de fond, il puisse y avoir la réapparition de quelques petits points chauds. Et normalement, le gros du travail là, des deux derniers jours a payé et on ne devrait plus avoir de nuisances cette nuit.
Arnaud Bonfil, directeur du CIVEM VKP, joint au téléphone cet après-midi par Kalinda Boakou. En bref, à l'approche du pont de l'Ascension, le gouvernement rappelle que le calendrier administratif 2026 arrêté par le gouvernement ne prévoit pas de week-end prolongé, contrairement aux usages observés certaines années pour l'Ascension le 14 juillet et la fête de la citoyenneté. Il informe en conséquence que l'ensemble des services et directions du gouvernement seront ouverts vendredi prochain, le 15 mai, mais aussi le lundi 13 juillet et le vendredi 25 septembre.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et la réponse à notre question d'hier, 96% des auditeurs d'RRB qui se sont exprimés par SMS se disent favorables à l'ouverture du corps électoral provincial aux natifs et aux conjoints. Ils sont 4% à dire qu'ils y sont opposés. Voici notre question du jour. Avec l'ontavirus, craignez-vous le retour d'une épidémie mondiale? Si vous le craignez, vous tapez 1. Sinon, vous tapez 2. Vous envoyez bien sûr votre réponse au 3146. La CCI célèbre un anniversaire en 2026, celui des 40 ans de présence de l'EGC Business School sur le territoire. 860 jeunes calédoniens ont été formés au sein de cette école depuis 1986, Léo Fichou.
Oui, chef d'entreprise, cadre dans de grandes sociétés ou encore haut responsable dans les administrations, l'EGC a, au fil des ans, formé de nombreux calédoniens. Isabelle Champmoreau, membre du gouvernement, ou encore Jean-Christophe Niotou, président de la Chambre d'agriculture et de la pêche, mais aussi maires de Farino ont eux aussi suivi cette formation. Une qualité d'enseignement reconnue dans le réseau EGC, explique Frédéric Pentecoste, élu à la CCINC en charge de la formation.
On compte actuellement une promo d'environ 113 étudiants. On souhaite à terme doubler les effectifs et les perspectives. Toutes les 3-4 ans, on doit absolument revérifier notre parcours pédagogique de façon à ce qu'on soit toujours en lien avec les besoins des entreprises. Et d'année en année, on est reconnu et actuellement même la Nouvelle-Calédonie est dans le top 3 des EGC. Le réseau EGC en métropole et outre-mer, c'est environ 50 écoles. Et nous, on fait partie du top de ces écoles.
Un parcours qui peut intéresser beaucoup de Calédoniens grâce à sa souplesse de programme où tout le monde y trouve son compte.
Je m'appelle Mathilde Grelier et je suis en troisième année présentielle à l'EGC. L'EGC, ça m'a fait grandir. Parce que avant d'arriver à l'EGC, en première année, j'avais une vision un peu floue de ce que je voulais faire, mais je savais quand même que je voulais aller vers le commerce et le commerce de la musique. Et maintenant, en troisième année, je peux dire que je suis en train de monter mon entreprise. J'ai des connaissances, de la formation, de l'expérience, mais aussi tellement évolué que l'EGC, je m'en souviendrai toute ma vie comme une étape très importante.
Je m'appelle Savelina Lopopo, j'ai 19 ans et je suis en première année à l'EGC. Pour nous, les étudiants, c'est une belle opportunité d'être en contact avec des acteurs économiques du pays. Donc ça nous permet aussi de leur poser des questions. Si on a pas mal d'événements pour mettre en lien nos cours et aussi la réalité économique de la Nouvelle-Calédonie.
Et pour cet anniversaire, l'EGC proposera plusieurs temps forts au travers de tables rondes et conférences, mais aussi un événement inédit pour la jeunesse calédonienne, l'Arena Challenge, un tournoi sportif interlycée à destination des premières et terminales qui se déroulera le 15 juillet au Stade Pentecoste à Nouméa. Un moment de cohésion co-organisé par l'UNSS. Pierre-Jean Roumégous est le directeur de l'Union nationale du sport scolaire sur le territoire.
C'est la première fois qu'on regroupe tous les lycées ensemble sans avoir les collèges en même temps. Donc c'est un événement qui se voit à la fois festif, qui fasse partie du parcours découverte, qui fasse partie du parcours d'orientation des élèves, qui leur donne des idées par rapport à une orientation possible sur le territoire, qui donne aussi un enjeu et des possibilités aux jeunes athlètes de haut niveau de participer également à une formation tout en étant dans leur passion également. Donc tout ça, c'est un triptyque qui est intéressant au niveau du vice-rectorat, au niveau de l'UNSS, et c'est pour ça qu'on participe. Voilà, c'est un souffle, c'est un petit peu un bol d'air pour eux, c'est permettre d'allier l'utile à l'agréable et faire en sorte que ce soit une très belle journée, un très bel événement et que les jeunes puissent enfin respirer et se dire bon voilà, on a un côté positif, demain est à construire et rien n'est bloqué, c'est à nous de jouer.
Les 21 lycées de Nouvelle-Calédonie ont jusqu'au 25 juin pour s'inscrire sur le site de l'UNSS. Notez qu'une partie des frais peut être prise en charge par la CCI si les établissements en font la demande.
Une terre pour un crime, voilà comment s'intitule l'ouvrage qui a été remis officiellement ce matin aux archives de Nouvelle-Calédonie par Géry Delatière. Un travail très exhaustif concernant un pan de l'histoire avec un grand H dans une région très précise de la Nouvelle-Calédonie. Écoutez Géry Delatière.
En toute modestie, c'est la mémoire de la colonisation pénale sur les villages de Farino et La Foix, c'est-à-dire à l'époque, ce que l'administration coloniale appelait l'arrondissement d'Ouraille, à partir de Terreba, qui englobait donc les actuels villages de Farino, de La Foix et de Saramea. Et donc cet ouvrage traite de la colonisation pénale à travers deux articles de la loi du 30 mai 1854 qui a permis l'envoi de forçats en Guyane et en Nouvelle-Calédonie sous le Second Empire. Ces articles qui permettaient, pour les éléments les mieux notés, la possibilité d'être mis en concession sur une terre. Il est réparti en trois tomes. Hein. Mm-hmm. Les deux autres tomes traitent cas par cas de tous les concessionnaires avec leur origine. Il y a une carte des départements de France d'où ils venaient. les mariages avec des femmes condamnées libres. Enfin, c'est un ouvrage complet sur la colonisation pénale dans cette région du territoire.
Géry Delatire a travaillé pendant de très nombreuses années sur cet ouvrage qu'il qualifie de travail d'une vie. Un ouvrage qui ne sera pas disponible en librairie. Écoutez, Géry Delatire.
Je ne peux pas le diffuser en librairie, étant donné que j'ai traité... les procès. Hein. J'ai développé les procès d'assises. C'était des grands criminels hein, que la France du Second Empire et de la Troisième République a expédié à l'autre bout du monde pour préserver les descendants, la mémoire des descendants. Je ne veux pas le diffuser en librairie. Par contre, je veux qu'il soit disponible aux chercheurs hein, pour la connaissance de l'histoire. Je pense que beaucoup de Calédoniens ne connaissent pas encore, ne maîtrisent pas encore leur histoire. Et c'est pour ça que je laisse aux archives. Je vais sûrement laisser un à la bibliothèque universitaire aussi, de façon à ce que les chercheurs, les jeunes, c'est mon but, laisser quelque chose, un outil de recherche pour les jeunes. Voilà, c'est pour ça.
Notez que nous reparlerons de cet ouvrage, Une terre pour un crime, demain matin à 7h30. C'est en effet Géry Delatire qui sera notre invité du matin. Autre rendez-vous sur l'antenne de Radio Rythme Bleu avec un invité exceptionnel demain dans l'édition de la mi-journée. Nous recevrons l'aventurier et écrivain Patrice Franceschi qui est de passage sur le territoire. Il évoquera ses derniers voyages et ses engagements, notamment auprès des chrétiens de l'Orient. Il sera interrogé sur son dernier ouvrage, Le passage du temps, dans lequel il réfléchit à la façon dont l'expérience passée peut continuer à éclairer le présent. Interview de Patrice Franceschi à suivre demain. Ce sera donc dans notre édition de 11h30. Il est 18h07. Une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, nous parlerons notamment en sport et météo.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Tous les dimanches, retrouvez Canal Folie, votre émission dédicace avec l'OPT. L'OPT contribue chaque jour au développement et à l'aménagement du territoire pour simplifier le quotidien de tous les Calédoniens. OPT, le monde à portée de main.
L'association Les Petits Pansements du Cœur mène campagne pour que les rêves des enfants malades chroniques hospitalisés se réalisent. Jusqu'au 16 mai, envoyez don au 36 77 233 francs le SMS. La somme sera intégralement reversée à l'association. En partenariat avec Atout SMS Média et l'OPT, objectif 14 000 SMS. Calédoniens du Nord, des îles et du Sud, ces enfants sont les vôtres, sont les nôtres. Nous sommes tous concernés. Faisons-les rêver.
Toute l'info en trois lettres. RRB.
Être délégué de classe, c'est un engagement citoyen et nous en avons parlé dans notre magazine citoyen ce midi sur Radio Rythme Bleu. Les délégués de 5e et 6e des collèges de Dimbéa se sont retrouvés mardi dernier au Parc Fayard pour être formés à cette mission spécifique. Ils vont participer au conseil de classe pour défendre leurs camarades, mais ils ont aussi un rôle à jouer dans le quotidien. Livia Gervolina, CPE du collège de Dimbéa-sur-Mer.
Ça leur montre la démocratie dans un établissement scolaire, c'est-à-dire que les décisions qui sont prises dans un établissement scolaire passe par le conseil d'administration. Conseil d'administration où les élèves sont représentés également, où les élèves votent. Et là, le vote d'un élève vaut autant que le vote d'un adulte dans cette entité-là. Donc ça leur montre qu'ils ont un pouvoir, qu'il faut qu'ils expriment et que de plus en plus, les établissements scolaires prennent en compte le besoin des élèves, les projets des élèves et que clairement, il faut qu'ils s'en emparent pour pouvoir faire de leur collège vraiment un espace où ils puissent s'épanouir au mieux pendant les 4 années où ils vont être scolarisés. Il y a une réelle importance en Nouvelle-Calédonie. On l'a vu au début dans les lycées avec la maison des lycéens. Et maintenant, ça s'applique en conseil de vie collégienne au collège. Et il y a un réel changement où les élèves peuvent vraiment être à l'origine de projets. Bien sûr, ils sont accompagnés, ils ne portent pas ça seuls, mais ça vient d'eux.
Owen, Nino, Alizé et Roman étaient également nos invités ce midi. Ils prennent leur rôle très à cœur.
Moi, je voulais déléguer pour aider les élèves et surtout, je voulais explorer le monde de délégué et aller au conseil de classe pour aider mes camarades.
Et moi, j'ai choisi d'être déléguée parce que j'aime aider la classe, j'aime bien avoir une bonne ambiance. Moi et la déléguée, on a fait, pour se présenter, on a fait des PowerPoint où on a proposé des projets.
On avait fait des questionnaires pour savoir comment les élèves se sentaient dans la classe, s'ils pensaient avoir réussi leur année et s'ils avaient des problèmes au collège ou familiaux, ils n'étaient pas obligés de répondre pour pouvoir plus les défendre au conseil de classe.
Donc moi aussi j'ai fait un PowerPoint et je l'ai fait drôle et sérieux en même temps pour avoir l'attention des élèves. Par exemple, moi j'ai fait un projet, c'est ajouter plus de fontaine à eau, parce qu'il n'y en a pas assez. En fait, j'attends d'être dans une réunion qui s'appelle le conseil d'administration, vu que j'en fais partie. J'attends d'y être pour en parler.
Et tout au long de l'année, les délégués sont accompagnés dans leur mission par les instances du Collège Citoyen, qui est une émission à retrouver évidemment en podcast sur notre site internet rrb.nc. Le sport avec de la natation, les Océaniens continuent jusque demain au Fidji. 9 jeunes Calédoniens sont engagés et réalisent jusqu'à présent de belles performances, Léo.
Oui, les 6 filles et 3 garçons sélectionnés répondent de la meilleure des manières, même face aux nageurs australiens et néo-zélandais. La délégation calédonienne compte 6 médailles, 3 en bronze, 2 en argent et 1 en or. L'or décroché par Anaë Delande, elle a remporté la finale du 400 mètres nage libre, c'était hier. Elle a par la même occasion signé la meilleure performance de l'histoire calédonienne chez les 14-15 ans. On l'écoute.
C'était génial, c'était une course de folie avec un dernier 50 mètres qui était très difficile. Les 5 derniers mètres, j'ai tout donné et j'ai pensé que ça allait faire plaisir à tout le monde et je suis vraiment fière de moi. Bien sûr, une médaille d'or aux Océania, c'est pas rien, c'est vraiment génial. Je suis partie assez vite, environ 2 secondes plus vite que sur le 200 mètres du matin. Ma concurrente, je lui ai mis d'abord 10 mètres, mais elle a un meilleur retour. Donc oui, c'était assez stressant, mais j'ai tenu bon et ça a marché.
La compétition continue jusqu'à demain avec encore des chances de médailles calédoniennes pour les 9 engagés. On parle bien évidemment des Océaniens de natation au Fidji.
Et avant de passer à la météo, notez que l'association Les Petits Pansements du Cœur a encore besoin de la générosité des Calédoniens. À 5 jours de la fin de la campagne, il manque 4575 SMS pour soutenir les enfants malades à réaliser leurs rêves. Vous pouvez donc envoyer don au 3677, don au 3677 pour le prix de 233 francs par message. Il reste donc 5 jours avant la fin de la campagne. La météo.
Socapor Peinture vous présente la météo. Socapor Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Swati, Lunicalo pour professionnels et particuliers et des milliers de teintes disponibles. Socapor Peinture, c'est à Ducos.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous ce soir, Ismaël.
Et on ouvre ce bulletin avec aucune vigilance particulière. Cette nuit, les averses sont nombreuses sur l'extrême sud et le sud de la côte ouest, sous un ciel nuageux. Nuages qui gagnent aussi les Loyautés, mais les averses y sont rares. Ailleurs, la nuit est étoilée, malgré quelques fins de nuages d'altitude. Le vent de secteur sud-est se maintient autour de 15 nœuds, voire localement 10 à 15 nœuds sur le sud-ouest, et faiblit autour de 10 nœuds sur l'est. Les températures minimales restent fraîches, souvent comprises entre 17 et 21 degrés, et jusqu'à 14 degrés dans l'intérieur.
Voilà, c'est bien ce que je me disais, ça caille. La fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.